Et puis ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.
Il y a des lieux dont la magie est à chaque visite absolument intacte. Le monastère de Brou est incontestablement de cela. Ce mausolée géant voulu par Marguerite de Bourgogne pour célébrer le souvenir de son défunt mari, Philibert le Beau, une extraordinaire église et un merveilleux cloître resté tel quel depuis le XVIe siècle, ce lieu donc abrite une fabuleuse collection de peintures qui va des primitifs flamands et se termine aux artistes du XXe siècle. Ce musée abrite aussi la plus importante collection de tableaux de Gustave Doré, dont l'incroyable Enfer de Dante, qui vient d'être restauré et réinstallé avec un éclairage qui lui rend enfin toute sa justice. Mais j'y suis allé pour voir une étonnante exposition, Amour, guerre et beauté, qui vient juste d'ouvrir et qui se termine le 26 juin. C'est à la fois une histoire de la Bourgogne, une histoire d'un style de peinture propre au 19e siècle, le style troubadour, une histoire de l'histoire et un morceau de l'histoire de France. Pour démêler cet écheveau, j'ai rencontré les deux commissaires, Magali Bria-Philippe et Jean-Gilles Giraud, pour une conversation sous le soleil de la Bresse, assis dans le jardin du cloître et accompagné du cri de quelques corbeaux. Je suis donc avec Pierre-Gilles et Magali, les deux commissaires d'une exposition que je qualifierais de vertigineuse au monastère de Brou. C'est une exposition sur un thème assez particulier, totalement inconnu du grand public, qui est l'histoire des ducs de Bourgogne. Alors, qui peut me faire le pitch de l'exposition, Pierre-Gilles ?
Alors, l'idée, effectivement, de l'exposition, c'est de montrer cette histoire des ducs de Bourgogne, depuis Philippe le Hardi à la fin du XIVe siècle, jusqu'à Charles Quint, la transmission donc de cet héritage des ducs de Bourgogne de la maison de Valois aux Habsbourg, à la fin du XVe siècle, le tout vu par les artistes du XIXe siècle qui mettent justement en scène ces épisodes de façon assez théâtrale, de façon assez romantique aussi souvent, en s'attachant parfois plus à l'anecdote qu'à la perspective historique, mais où néanmoins on décèle le fait que le regard des artistes français ou de leurs commanditaires n'est pas, par exemple, identique à celui des artistes ou des commanditaires belges. Parce que voilà, la France est un pays d'une vieille histoire qui s'est construite justement au XIXe siècle. On constitue tout un roman national qui donne une vision de la construction continue d'un État de plus en plus centralisé. Alors qu'à l'inverse, la Belgique est une jeune nation fondée en 1830 et qui puise dans ses références du XVe siècle un modèle, une sorte de préfiguration de ce que sera l'État belge au XIXe, une façon de se donner une profondeur historique accrue, et puis parfois avec également des approches plus contrastées, puisque les artistes belges vont mettre justement tantôt l'accent sur cette préfiguration du futur État, ou bien à l'inverse montrer les ducs un petit peu comme des tyrans auxquels les villes doivent arracher leur autonomie ou se rebeller parfois contre l'autorité ducale puis impériale.
Oui, je précise qu'on parle de Belgique parce que le duché de Bourgogne est un immense duché qui comprend on va dire la partie centrale de l'Europe, du sud des Pays-Bas quasiment jusqu'au nord de l'Italie. Magali, est-ce que vous pouvez nous parler des peintres, parce que c'est un style particulier? Un style qu'on connaît plus, qui a été remisé dans les placards pendant très longtemps, qui a été remis au goût du jour, surtout par le musée d'Orsay, qui est le style troubadour. Alors qu'est-ce donc que ce style troubadour ?
Alors à vrai dire, l'exposition présente plusieurs styles, même s'il est vrai que l'intérêt pour les sujets médiévaux naît avec le style de genre anecdotique, c'est comme ça qu'on l'appelle à ce moment-là. Le premier tableau de style anecdotique est présenté par Fleury Richard au salon de 1802 et représente Valentine de Milan, qui est la veuve de Louis d'Orléans, assassinée par le duc de Bourgogne, Jean sans peur, et qui réclamera justice. Donc c'est une figure d'ailleurs que l'on retrouvera tout au long de ce qu'on va appeler aussi familièrement, effectivement, le style troubadour. Ces peintres très influencés par la peinture hollandisante, très fine, très minutieuse du XVIIe siècle, se documentent beaucoup, mais recréent un passé totalement fantasmé. Mais vont ensuite évoluer vers une peinture plus académique, une peinture de plus grand format, de grand salon, avec pour chef de file Paul de la Roche. Donc à partir de 1830, on va plutôt parler de genre historique. Ça correspond aussi au moment où Louis-Philippe crée le musée de l'histoire de France à Versailles. Et à partir de ce moment-là, la critique va se diviser entre les partisans de cette peinture qui devient de plus en plus officielle et ceux qui restent fidèles justement au modèle des premières générations qui s'adressaient peut-être davantage à une clientèle privée, à une clientèle de collectionneurs qui apprécient aussi des sujets rares, des sujets d'érudition. Et qui humanise au fond ces personnages, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de représenter la grande geste héroïque et des sujets antiques, mais d'avoir une approche plus émotionnelle. Alors ceci étant, dans l'exposition, il y a des peintres de styles très différents. Il y a aussi des romantiques comme Delacroix, qui, lui, a une touche beaucoup plus libre, beaucoup plus avant-gardiste, qui s'inspire des grands drames shakespeariens ou, évidemment, de Walter Scott, mais sans avoir ce fini très, très léché, avec une attention aux détails, une vision très documentaire, mais plutôt va nous plonger au cœur de l'action et des turbulences de l'histoire.
Alors, il y a aussi un projet narratif dans votre exposition. Vous l'avez appelé Amour, guerre et beauté. Donc, ça rappelle une telenovelas brésilienne, je crois. Il n'y a pas que de la gaudriole. Il y a du drame
aussi.
Il y a beaucoup de drame. Comment vous avez choisi les différents épisodes d'amour, de gloire et de beauté?
Alors, ce qu'on voulait évoquer avec ce titre, c'était le côté guerre des trônes avec les rebondissements, avec les conflits, les vendettas familiales, les trahisons, mais aussi les histoires d'amour, hein, parce que parfois les mariages politiques, les mariages de raison peuvent se transformer en attachements sincères. Et la beauté, évidemment, qui est celle des œuvres d'art, du mécénat artistique aussi de ses souverains, qu'on évoque en guise de conclusion. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois apprendre des choses à nos visiteurs, mais tout en les divertissant, parce que cette histoire est tout simplement captivante.
Alors, apprendre aux visiteurs, c'est effectivement, on en apprend beaucoup, beaucoup, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, et je disais que c'était une exposition vertigineuse, parce qu'on est dans une sorte de mise en abîme à la fois de l'histoire de l'art et du temps.
On a effectivement, nous sommes des commissaires et des visiteurs du 21e siècle, regardant des œuvres du 19e, mettant en scène des épisodes qui vont du 14e au 16e siècle. Donc effectivement, il y a déjà une stratification, un effet de vertige, effectivement, de mise en abîme du point de vue chronologique. Et puis on arrive, nous aussi, du point de vue du discours, du fond, avec nos connaissances historiques qui ne sont plus tout à fait celles du 19e, sur lesquelles repose justement les œuvres de ces artistes qui puisent leur inspiration à la fois dans l'histoire des ducs de Bourgogne, de Prosper de Barante, publiés dès les années 1820, mais aussi dans les romans historiques de la même génération, notamment ceux de Walter Scott. Donc on voit dans l'inspiration de ces artistes cohabiter, on va dire, des ouvrages historiques et puis des ouvrages romanesques qui se partagent et se partagent une même inspiration. Donc il y a en effet des jeux de miroir à n'en plus finir entre les événements eux-mêmes, la vision, la lecture qu'on a donnée de l'histoire ou la littérature au XIXe siècle, ce qu'on en sait aujourd'hui et qui se superpose, comme on l'évoquait tout à l'heure, à la superposition chronologique et à la vision que les artistes eux-mêmes en donnent, puisque ce sont des compositions souvent, encore une fois, très très théâtrales, très qui reprennent volontiers d'ailleurs des boîtes spatiales. Et il ne faut pas oublier que beaucoup d'ailleurs d'historiens de ces générations, d'auteurs, sont à la fois des historiens, des romanciers, des auteurs de théâtre, et s'échangent et circulent dans les mêmes cercles que ces artistes. Donc c'est une sorte de tout petit monde, mais qui donne une vision, effectivement, où il faut attraper un fil et puis ne pas le lâcher dans ce dédale d'histoire.
Et pour finir, on peut tirer le fil même jusqu'à la fin du XXe siècle, parce que les écoliers qui étaient non pas collégiens, mais en tout cas à l'école primaire, jusque dans les années 70, ont connu ces tableaux, puisque ce sont eux qui ont guidé la représentation de l'histoire de France jusque dans les années 70. Et vous en exposez quelques reproductions.
Oui, effectivement, ces grands tableaux de salon exposés aussi dans les palais royaux ont connu également une extraordinaire diffusion à travers la lithographie sur des supports populaires ou scolaires. Donc on va retrouver sur des almanachs, sur des dessins satiriques, sur des bons points, sur des cahiers d'écoliers. Donc ces compositions historiques diffusées à très grande échelle et qui servent en fait à enseigner l'histoire de façon plus visuelle et qui vont considérablement marquer les esprits sur des générations.
Ben, je vous remercie beaucoup de ces quelques minutes passées avec moi pour parler de amour, guerre et beauté qu'il faut absolument venir voir au monastère de Brou. Merci.
Et puis ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.